Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Chers amis, chers frères et chers sœurs de Radio Présence, nous sommes dans les temps où, face à la révolte d'Absalom, le roi David avait dû s'enfuir, mais il reprend la main, donc grâce à ses fidèles, et il veut lui-même partir au combat avec son armée, était-elle qu'il l'a bien répartie, et c'est un stratège qui a vraiment de l'expérience, mais les siens quand même sont délicats, et même s'il a certainement vieilli, bien évidemment, mais les siens lui disent qu'il vaut mieux qu'il reste un petit peu au-delà de la bataille, et en lui disant ceci, tu ne dois pas partir, car si nous prenions la fuite, on n'y ferait pas attention. Et si la moitié d'entre nous mourait, on n'y ferait pas attention, tandis que toi, tu es comme 10 000 d'entre nous. Et c'est un bel hommage, n'est-ce pas, à lui. Et puis, il vaut mieux que tu nous sois un secours prêt à venir de la ville. Donc, par révérence, par respect, etc., et par aussi le souci que le roi vieilli ne présume pas trop de ses forces. Et au premier temps de la vaillance du héros, c'était bien longtemps qu'on en avait parlé, David, vainqueur de Goliath, était accueilli au son des chants des femmes qui disaient « Saül a tué ses milliers, et David ses myriades », littéralement ses 10 000. Et donc on retrouve là dans la formule des tu es comme 10 000 au milieu d'entre nous, c'est peut-être une réminiscence un petit peu de cette hommage. C'est entendu, donc, David accepte de rester dans la ville, comme il est bon qu'un chef garde du recul, toujours, et c'est important, d'ailleurs, c'est un peu le mot d'évêque, vous savez, le mot évêque signifie se veiller à partir du haut, d'en haut. Et l'évêque n'est pas sur un mirador, mais l'évêque doit prendre de la distance de manière à voir l'ensemble, et comme j'aime souvent à dire, à pourvoir à l'ensemble. Donc il faut qu'il y ait du recul, comme Napoléon se mettait sur des collines dans lors des batailles, de manière à voir un peu les mouvements des troupes et pouvoir les arranger ou les répartir comme il convient. Donc il reste dans la ville, avec du recul, pour voir l'ensemble de plus loin, et il laisse une dernière recommandation à ces 3 généraux qui se sont répartis les différentes ailes de l'armée, et par égard pour moi, ménager le jeune Absalom. C'est un ordre répercuté dans toute l'armée. Son ennemi mortel, son fils devenu son ennemi mortel, parricide en puissance, donc qui était prêt à tuer son père, n'en reste pas moins son fils, et son fils qu'il aimait. Et l'engagement des deux parties a lieu de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire sur le territoire d'Israël, dans la forêt d'Éphraïm, et ce qui n'est pas un champ de bataille commode, une forêt, même si c'est une petite forêt, se prête plutôt à une guérilla. Cependant, le résultat ne fut pas douteux, voici ce que dit le texte, l'armée d'Israël y fut battue devant la garde de David. L'armée d'Israël, c'est celle que mis au point Absalom, son fils, hein, donc c'est une guerre civile. Elle fut battue, l'armée d'Israël, devant la garde de David, avec tous ses fidèles. Le combat s'éparpilla dans toute la région, et ce jour-là, la forêt fit dans l'armée plus de victimes que l'épée. Et Absalom va être justement la victime à la fois de la forêt et de l'épée. Dans les mouvements désordonnés de la bataille, dans la vallée du Jourdain, sous Futaie et Taillis, Absalom, dit le texte, se heurta par hasard à des gardes de David. Absalom montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand chêne. La tête d'Absalom se prit dans le chêne, il resta suspendu entre ciel et terre, tandis que continuait le mulet qui était sous lui. On parle de la grande chaîne ici. Et comme vous savez, frères et sœurs, maintenant que je suis archevêque émérite, je ne suis pas à Toulouse. Je passe à Toulouse, mais je ne réside guère longtemps. Mais je suis dans un monastère bénédictin dans l'île de Wight en Angleterre. Et je suis frappé de voir, un monastère que je connais depuis trop longtemps, dans la propriété du monastère et sur l'île de Wight en général, et même sur la terre, ce qui s'appelle le mainland, la grande terre de l'Angleterre, les chênes sont extraordinaires. Les chênes sont immenses, avec une ramure extraordinaire. Et là, quand on va voir que la tête et les cheveux d'Absalon ont été pris sous la ramure d'un grand chêne, pour moi, je le visualise là où je réside actuellement, dans l'île de Wight. Et malheureusement pour lui, donc, Absalon semble isolé et personne des siens ne vient le dégager. Un des gardes de David l'a repéré cependant, qui vient le signaler à Joab, un des chefs de l'armée de David. Il se voit reproché par son vif général de ne pas l'avoir tué tout de suite. L'homme se souvenait de l'ordre de David, par égard pour moi, ménager le jeune Absalom. L'homme se souvenait donc de cet ordre de David, et par délit pour rien au monde, il ne l'aurait transgressé. Le sang de Joab ne fait qu'un tour, il prit en main 3 javelots et les planta dans le cœur d'Absalom encore vivant au milieu du chêne. Puis s'approchèrent 10 cadets, les écuyers de Joab, qui frappèrent Absalom et l'achevèrent. On est pressé d'en finir. Joab ordonne de sonner le cor pour que cesse cette guerre civile qui a déjà fait trop de victimes, guerre civile qui est même une guerre familiale. On enterre Absalom en pleine forêt et l'on dresse sur lui un énorme monceau de pierres, une sorte de tumulus. Il s'agit maintenant d'aller annoncer à David le dénouement de la tragédie. Et Ahimaas, qui est le fils de Sadoc, l'indicateur des jours précédents, veut aller porter la nouvelle au roi. Mais Joab, qui connaît son maître, l'en dissuade, car la victoire est en même temps un deuil pour David. Un Cushite, c'est-à-dire un esclave éthiopien noir, sera mieux adapté pour porter un message où est incluse la mort du fils du roi. Ahimaas trépigne malgré tout d'aller rejoindre le roi et les deux se mettent en course. Resté à Mahanaïm, le roi attendait anxieux l'issue de la bataille. Le texte est tout de beauté véritablement et de finesse d'âme.